Accès libre.
Accès libre, première édition du mois de novembre, et on va passer ce mois avec Gail Ouellet, qui est, êtes-vous directrice générale, Gail?
Oui, je suis présidente directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines.
Le RQMO.
Oui.
Oui, on risque d'utiliser l'acronyme pas mal souvent. On va causer également à Arielle Paco, qui, elle, est une des personnes que vous nous présentez ce mois-ci. On vous a demandé de nous initiés à quelques-unes de ces maladies orphelines que l'on connaît pas. Évidemment, sur 6000, on va en prendre 4 ou 5 selon le temps, mais rien ne nous empêche ensuite d'y revenir au cours de la saison. Ariel, qui est déjà avec nous, nous allons également, cette fois, ça n'avait pas fonctionné un petit peu plus tôt dans la saison, mais regardez comment Emma Québec nous propose en 2014-2015 un plan d'action pour recevoir le don de sang d'une personne à limitation fonctionnelle. D'ailleurs, semble-t-il, l'Office n'aime pas ça, limitation fonctionnelle. On essaie d'avoir une entrevue la semaine prochaine pour parler du glossaire entourant le handicap. Alors, on verra qu'est-ce qu'il y a de mal avec la limitation fonctionnelle. Et il y avait la semaine dernière, pour une sixième occasion, une journée de discussion où les municipalités accessibles se réunissaient à Saint-Eustache. Et on va causer de cela avec un animateur communautaire de la ville de Saint-Eustache et un participant de l'organisme Kéroul. Kéroul qui était sur place, tout comme Altergo. On a fait des appels et Michel Trudel de Kéroul, il nous attend déjà, lui qui est déjà dans le corridor. Mais comme on démarre le mois, on aime ça connaître les gens avec qui on va passer ce mois-là. Et pour y avoir parlé brièvement, c'est la semaine dernière qu'on a causé ou il y a deux semaines, Gail?
Il y a deux semaines.
Il y a deux semaines déjà, mais c'est à peu près tout ce que je connais de vous. Et c'est étonnant parce que, souvent dans ces émissions-ci, le milieu du handicap étant quand même pas si grand que ça, souvent ce sont des gens qui reviennent et je suis bien content de pouvoir vous serrer la pince, de vous connaître et surtout que vous ayez dit oui parce que si moi je vous connais pas, vous me connaissez pas plus puis vous avez quand même accepté facilement de passer le mois avec moi. Parlez-moi un peu de Gail Ouellet. Quel est le lien entre Gail et le RQMO? Comment vous êtes-vous retrouvé là?
Ben oui, c'est une question qui m'est posée souvent.
J'imagine.
Est-ce que j'ai une maladie rare ou mes
enfants?
Vous êtes
peut-être orpheline à la place.
Même pas. Et puis non, c'est pas le cas. Je suis en fait une professionnelle de la santé. Je suis généticienne, mais aussi conseillère en génétique agréée. Puis quand on est conseillère en génétique, on travaille en clinique, ce qui m'a amenée il y a 13-14 ans à rencontrer des familles, des individus, des couples, même des enfants avec des maladies génétiques. Et les maladies génétiques sont habituellement rares. Et pour les aider, les soutenir, leur donner l'information, c'est notre rôle, les conseillères en génétique. Puis ça m'a amenée à travailler avec des associations de patients de maladies rares génétiques, de m'impliquer de plus en plus, puis finalement d'aider des associations à créer ce regroupement. Moi qui pensais aider, puis faciliter, puis retourner à d'autres choses, finalement, on m'a demandé de rester. Et puis, je m'occupe de ce regroupement.
Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de maladies qui ne sont pas représentées par un organisme, une association qui se préoccupe spécifiquement de ces gens-là versus une maladie qui, elle, est mieux représentée peut-être?
En fait, on va y aller par exclusion. Là, je dirais qu'il y a à peu près, aujourd'hui au Québec, une cinquantaine, soixantaine d'organismes qui s'occupent de maladies rares, mais il y a 7000 maladies rares. Donc,
mais est-ce qu'il y a des associations qui vont, disons, se préoccuper de plus d'une maladie parce qu'il y a des ressemblances?
C'est un fait. Là, par exemple, je prends l'exemple de Dystrophie musculaire Canada. Eux, ils s'occupent, ils ont une liste d'à peu près 170 maladies neuromusculaires dont ils s'occupent. Alors, c'est sûr, il y a des associations, c'est comme des catégories de maladies. Mais la plupart, c'est quand même une seule maladie ou quelques-unes seulement. Et puis, c'est sûr que dans les maladies rares, souvent les gens se regroupent à travers le Canada. Fait qu'il peut y avoir une association canadienne ou en tout cas, il y en a beaucoup à l'international, évidemment.
Qu'est-ce qu'on fait pour aider justement ces gens qui sont sous-représentés, mais pour qui c'est tellement important?
Nous, au Québec, en tout cas, nous, notre rôle, notre mission, là, c'en est une d'information et de soutien. Alors, on a un centre d'information et de ressources en maladies rares qui est le seul qui existe et qui pallie certainement un besoin dans notre système de santé. Puis, on diffuse beaucoup d'informations sur les maladies rares et les enjeux liés aux maladies rares. Pour ce qui est de la reconnaissance des maladies rares, le Québec et le Canada comme pays est très en retard par rapport à l'international. Nous, on n'a même pas une définition de ce qu'est une maladie rare. Donc, pas de définition, c'est bien dur de reconnaître. Hein? Puis, on n'a pas encore vraiment de politique, de programme.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on pourrait croire que s'il y a définition ailleurs, on a juste à prendre leur définition. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir notre définition?
C'est la définition la plus utilisée à l'international qu'on utilise. Puis je pense qu'elle est... on l'utilise, mais c'est pas officiel. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas considéré comme une catégorie de maladies. Par exemple, on va parler en santé publique des maladies infectieuses, on va parler des maladies mentales, on va parler... Mais les maladies rares, alors qu'ils sont reconnus comme une catégorie de maladies dans de nombreux pays, d'ailleurs, il y a de 30 à 40 pays actuellement qui ont soit déjà adopté ce qu'on appelle un plan national maladies rares, ou sont en train de le faire, ben nous, on n'a pas ça. Donc, c'est vrai que c'est pas juste une question de la définition, mais c'est sûr qu'une fois qu'on définit, on reconnaît. Puis de là viennent des programmes et des politiques.
Y a-t-il des maladies qui sont en voie d'être reconnues, qui sont à, disons, passer à travers le processus, ou on dirait que maintenant... C'est presque plus avantageux pour le gouvernement dans cette période d'austérité de dire non à tout nouvel ajout?
Non, c'est pas une question de reconnaître chaque maladie une par une. Les maladies sont là, ils existent, sont reconnues.
C'est pour ça que...
je veux dire, dans le milieu médical, si quelqu'un a une maladie, il devrait avoir les services là, ou la prise en charge. C'est ça qui pose problème des fois. Il devrait avoir un bon diagnostic. Ça pose problème aussi des fois. Fait que c'est pas tellement... et puis, il y a des nouvelles maladies qui sont découvertes toutes les semaines à travers le monde. Donc, c'est pas dans le sens de reconnaître chacune. Par contre, là où on parle de reconnaissance de maladies, c'est au niveau des services, par exemple. Obtenir l'invalidité par la Régie des rentes du Québec, bien, on voit souvent, c'est pas nécessairement par nom de maladie. Alors là, les gens, ils pensent que, ah, ma maladie n'est pas reconnue, ils ne me donnent pas mon statut d'invalidité. C'est pas tellement comme ça que ça marche, là. C'est souvent selon les incapacités puis les invalidités.
Justement, est-ce que dans ces 7000 maladies pour lesquelles le RQMO se soucie, il y a des maladies, disons, handicapantes, puis il y en a d'autres, j'imagine, qui sont uniquement liées à un physique qui va de moins en moins bien. Est-ce que vous travaillez comme sur deux tableaux? Comprenez-vous ce que je veux dire? Bon, je vais prendre un exemple très... Mais bon, une grippe, c'est badrant, mais c'est pas handicapant. Tandis que une surdité, c'est autre chose. Dans vos maladies, j'imagine qu'il y en a qui ne s'attaquent qu'au corps. Exemple, justement, on va parler du vitiligo tantôt. Oui, il y a le handicap social, mais sinon, physiquement, il n'y a rien que la personne ne peut faire, contrairement à quelqu'un qui a un sens en moins. Donc, est-ce que vos représentations se font comme à différents niveaux?
Bien, nous, de notre création, on a voulu être inclusif. Puis de ne pas mesurer... oui, il y a des maladies plus sévères, fatales, neurodégénératives, etc. Mais on a décidé de s'appeler maladie orpheline parce que même certaines, si on peut dire, il y en a qui ne veulent pas que ce soit appelé des maladies, supposons des conditions de la peau ou autre chose, ou autres conditions comme ça... c'est malgré nous, ça peut être... Nous, on considère que ça peut être stigmatisant, il peut y avoir des préjugés, ils sont mal compris, donc pour nous, ils sont orphelines quand même. Donc, on veut être inclusif, c'est dans ce sens-là.
Comment cette réalité-là évolue-t-elle? Est-ce que, c'est une réalité que l'on connaît mieux depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, du moins l'existence de maladies orphelines? Mais est-ce qu'au Québec, on connaît mieux les maladies orphelines ou c'est simplement l'existence de maladies orphelines qu'on connaît peut-être mieux depuis 10-15 ans?
L'existence, là, c'est, définitivement, on connaît mieux de l'ensemble l'ensemble des maladies orphelines, mais je dirais pas 10-15 ans, je dirais 3-4-5 ans. Okay. Oui, tout à fait. Puis l'autre chose, au Québec, il y a plein de gens qui pensent encore que les maladies orphelines au Québec, c'est seulement les maladies des Canadiens français, des Québécois fréquentes au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que c'est pas seulement ça. Ça, c'est un préjugé qui existe. Puis, mais pour ce qui est de les différentes maladies orphelines, bien, avec 7000, là, je peux vous dire que même les médecins en connaissent très peu. C'est très difficile de les connaître tous. C'est normal. Mais c'est plutôt de reconnaître qu'ils peuvent être devant quelque chose de rare. Puis...
Mais comment a-t-on établi que, bon, OK, nous, on va s'occuper de 7000 maladies? Je veux dire, il y a un jeu de soir, là, vous avez fait un 5 à 7 avec des amis, puis vous dites, OK, on prend celle-là, oui, non, non, oui? Je veux dire, comment vous avez déterminé ça?
OK. Bien, il y a une base de données internationale qui existe, qui s'appelle Orphanet, auquel notre organisme participe pour leur verser nos ressources en maladies rares au Québec. Puis, ils essaient, eux, par leurs moyens scientifiques, d'établir au moins un estimé de prévalence des maladies. Alors, on peut d'abord se fier à cette base de données pour établir qu'une maladie dont la définition, en fait, c'est moins d'une personne sur 2000 dans la population. Puis c'est sûr que on voit une maladie où c'est 1 sur 1500 ou 1 sur 1000, mais qu'elle semble orpheline, là, on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis,
ouais,
comme on dit.
Ouais. Est-ce qu'on sent, par contre, au niveau de la recherche à l'international, peut-être une recrudescence de chercheurs qui se penchent sur ces questions-là?
Oui, on a vu ce changement-là dans les dernières années, beaucoup plus d'intérêt pour la recherche, pour le développement de traitement.
Comment ça se produit?
Bien, je vais vous dire, c'est sûr que ça a été initié par les associations de patients. C'est vraiment par un effort de sensibilisation puis de pression. Et puis, donc, beaucoup de pays, surtout en Europe et aux États-Unis, parce que le Canada, on est toujours en retard. Aux États-Unis, ils ont le Office of Rare Disease. Le NIH a plusieurs programmes pour les maladies non diagnostiquées, pour les maladies rares. En Europe, ils ont des réseaux internationaux. En France, ils ont la Fondation Maladies rares qui est dévouée à la recherche. Il y a l'Association de myopathie française, c'est eux-mêmes qui ont été à l'avant-garde de tout ça puis qui a créé le Téléthon au début décembre.
Mais ce que je remarque, c'est que ce ne sont pas les pharma qui investissent, mais vraiment des individus qui amènent de l'argent en disant « Nous, on vous paye pour que vous cherchiez, parce que si on attend que les pharmaceutiques se penchent sur nos réalités à nous, ça ne bougera pas. »
Bien, ça a bougé à partir de 1983 pour les compagnies pharmaceutiques, quand aux États-Unis, ils ont établi un règlement qu'on appelle le règlement des médicaments orphelins, puis qui donnait des incitatifs aux compagnies pour qu'ils s'y intéressent. Ah. Sinon, ils ne s'y intéressent pas. Alors, depuis ce temps-là, il y a de l'intérêt. Puis, dans les dernières années, les grosses compagnies pharmaceutiques, ils se cherchent d'autres créneaux, puis ils adoptent les maladies rares. Mais quand même, on a quand même juste 250 médicaments là, pour 7000 maladies rares.
Est-ce que le vitiligo fait partie de ces maladies chanceuses, entre guillemets?
Je ne crois pas. Je pense que Mme Paco va nous en parler plus, mais je ne crois pas qu'il y a beaucoup de développement à ce niveau-là.
Bon, on s'arrête et on va inclure Ariel dans la discussion. Thank you. Alors, incluons-la dans la discussion. Ariel Pacaud, bonjour.
Bonjour.
On va parler avec Gail et vous de Vitiligo. Je regarde, je vous ai posé la question dans le corridor. Vous n'êtes ni présidente, ni directrice, ni concierge. Qu'êtes-vous?
Eh non, je suis juste une maman qui a en fait une jeune demoiselle qui souffre du vitiligo.
Mm-hmm.
Et j'ai voulu en fait m'impliquer pour donner un petit peu... une visibilité à cette affection, parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était quelque chose qui était vraiment laissé pour compte.
Ouais.
Et sur lequel, en fait, il y avait le patient, en fait, était vraiment laissé de côté pour moi, je trouve.
Est-ce qu'il y en a une association qui s'intéresse au vitiligo?
Ben, c'est ce que je disais à Mme Ouellette. J'en ai une qui a été répertoriée, qui se trouve à Toronto, mais en fin de compte, je m'aperçois que c'est comme si c'était un petit peu du creux, parce que derrière, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose.
Ouais. C'est donc une affection de peau qui, bon, consistant à une perte de pigmentation.
C'est ça.
Ce qui donne une couleur blanche à la peau.
Oui, mais c'est ça.
C'est par tache, c'est ça?
C'est ça. C'est pas uniforme, mais ça apparaît.
Des plaques.
C'est ça. C'est des plaques, mais en fonction du type de vitiligo, parce qu'il y en a plusieurs, il peut apparaître à différents endroits, soit uniformément, soit d'un côté, ou alors dans les cas les plus importants, c'est une dépigmentation à l'intégrale.
Dans mes notes, on parle d'un à 2% de la population et n'importe qui peut en être atteint.
C'est ça.
Ben c'est beaucoup, à 2%.
C'est ce qui est répertorié, mais comme je le dis, en fin de compte, quand on regarde bien, déjà au Canada, on n'a aucune statistique. Donc, je ne sais pas sur quoi exactement ces chiffres sont basés. Là. C'est un petit peu difficile pour moi d'avoir vraiment un pourcentage vraiment exact.
Est-ce qu'on connaît la raison?
Non.
La cause?
Je pense, non, je ne peux pas vous dire. J'en ai vraiment pas aucune idée.
Est-ce qu'on sait quelle ne serait pas la cause? Parce que des fois, c'est comme ça qu'on commence la recherche. Au moins, on élimine.
Je pense que...
C'est pas contagieux, ça
non,
on le sait.
C'est pas contagieux, c'est pas douloureux.
C'est pas une infection.
Non. C'est juste, en fait... je dis juste. C'est pas vraiment juste. C'est, en fait, au niveau de l'apparence de la personne. Donc, ça va plus toucher la personne au niveau psychologique. Parce qu'en fin de compte, elle le véhicule sur elle, donc partout où elle va aller, que ce soit pour à l'école, pour les enfants, dans la rue, dans les commerces, pour un emploi. En fait, c'est apparent. Donc, la personne le véhicule et en fin de compte, les gens qui ne connaissent pas vont avoir des préjugés, vont avoir des idées.
Ouais, ça saisit.
C'est ça.
Ouais. Ça peut être génétique?
Oui. Ben, c'est ça. C'est qu'il y a différents... Ils disent que ça peut être génétique, ça peut être auto-immune, ça peut être un facteur de stress, ça peut être... Il y a plein de différents facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et c'est surtout que ça touche aussi bien l'enfant, l'adulte, l'homme, la femme. Il n'y a pas de... C'est toutes les ethnies qui peuvent être touchées.
Y a-t-il des régions du globe qui sont plus atteintes que d'autres?
Ça, je ne peux pas vous dire.
Gail, par hasard, là, si vous savez quelque chose... Gênez-vous pas.
Ben, en principe, c'est toutes les ethnies qui peuvent être affectées parce qu'évidemment, il y en a des maladies qui sont plus fréquentes dans certaines populations ethnies ou dans certains pays. Mais dans ce cas-ci, ce serait toutes les ethnies. Puis en fait, c'est ce qu'on appelle une maladie multifactorielle. Donc, on n'a pas une cause précise. Comme Madame disait, génétique, auto-immune. Puis génétique, c'est une susceptibilité génétique. On suspecte certains gènes que si la personne a un marqueur spécifique pour ce gène-là, la rend plus susceptible d'avoir le vitiligo, mais il faut d'autres facteurs qui interviennent aussi. Ça, c'est un peu comme le cancer, en fin de compte, d'autres maladies multifactorielles comme ça. Alors, et puis le fait aussi que ça, c'est pas nécessairement là à la naissance, hein, puis ça peut apparaître au cours de la vie,
nous
pose des questions justement sur ce mécanisme-là qui est pas entièrement génétique. Et dans ce sens-là, ne devrait pas être héréditaire clairement, mais il peut y avoir des agrégations là, dans des familles. Mais c'est à peu près... on sait que c'est au niveau de la mélanine, hein, qui est finalement le colorant, si on veut, pour la peau. Le pigment. Donc, quelque chose là, qui se passe à ce niveau-là, mais c'est pas clairement établi.
Ariel, vous me disiez que ça évolue. si on veut, le pourcentage de la peau affectée de votre petite bonne femme est en croissance. Oui. Donc, c'est comme si on ne peut pas aussi facilement s'habituer en disant, bon, je suis comme ça, je suis comme ça, faut que je vive avec, parce que le « je suis comme ça » d'aujourd'hui ne sera pas le même que l'an prochain.
Ben disons que c'est d'une personne à une autre, et ça peut être différent. Il y a des personnes qui vont avoir une plaque ou une tache qui va apparaître, elle ne va pas évoluer. Il y en a sur lesquelles elle va régresser, et il y en a sur d'autres où ça va se développer à d'autres endroits sans pour autant savoir la raison. Mmh. Donc, c'est ça qui est un petit peu délicat et sur lesquels, je pense, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas le contrôle. C'est en fin de compte, ça évolue ou ça régresse, mais c'est plus vers l'évolution que la régression.
Mis à part la surprise et peut-être une maladresse sociale évidente, est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a d'autres effets au vitiligo?
Mais il y a d'autres maladies auto-immunes qui peuvent venir se greffer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont développer d'autres maladies qui vont venir en fait se greffer sur le vitiligo.
Donc, on serait plus susceptible.
Oui.
Parlez-moi de votre fille.
Ben moi, j'ai une magnifique petite jeune fille qui a 9 ans, qui a été en fait diagnostiquée avec son vitiligo. Elle avait 6 mois. Mais à mon avis, elle l'avait à la naissance parce qu'en fin de compte, la tâche qu'elle avait déjà à 6 mois était déjà assez importante. Et depuis ces 6 mois, en fait, ça n'a pas arrêté de progresser. Et maintenant, elle en a. Au début, elle en avait juste sur l'abdomen. Maintenant, elle en a les mains, les pieds, les coudes, le ventre, toutes les parties génitales, le visage, le cou, le dos. Enfin, c'est un petit peu réparti un petit peu partout. Et en fait, c'est ça, c'est qu'elle s'étale, mais il y a d'autres plaques qui vont apparaître à d'autres endroits. Donc, ce n'est pas uniforme. Elle ne va pas avoir tout un bras blanc. Ça va être quelques doigts, la paume, au niveau du poignet.
Ouais. Est-ce qu'il y a des masquants, que ce soit de la crème auto-bronzant ou...
Oui, il y en a. Il existe, bien sûr, des cosmétiques qui existent. La seule chose, c'est que c'est quand même assez contraignant parce que ça prend beaucoup de temps de couvrir toutes les parties. Et en même temps, il y a aussi le facteur, toutes les activités, vous allez à la piscine ou autre, surtout pour des enfants en bas âge, c'est assez contraignant, je pense. Et puis, je pense qu'il faut plus essayer d'aller à l'inverse, c'est-à-dire de les faire accepter par la société et qu'eux-mêmes s'acceptent, que d'essayer de changer l'apparence qu'eux ont, comme si, en fait, c'était à eux de devoir essayer d'intégrer la société.
Ouais.
Je pense que c'est un petit peu l'effet inverse qu'il faut essayer de faire et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire à ma façon.
Je n'ai jamais vu quelqu'un avec le vitiligo, à quel point, et là je me tourne vers vous deux, à quel point est-ce visible et comment s'habituer à être regardé à ce point-là?
Disons que c'est sûr que c'est plus visible pour les personnes qui sont de couleur.
Oui, c'est vrai.
Parce que la différence, le contraste est beaucoup plus important. Ce qui est que c'est pas pour autant que c'est mieux pour une personne qui soit plus d'un teint plus clair. Parce que la personne le sait de toute façon, donc elle le porte en elle. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus important. Et ce qui est plus difficile, c'est surtout quand c'est au niveau du visage, tout ce qui est en fait visible, qui ne peut pas être caché par l'habillement, que ce soit par un t-shirt ou un pantalon. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ne vont pas faire certaines activités parce qu'ils ne veulent pas, genre aller à la piscine.
Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, ils sont gênés. Voilà. Moi, c'est un petit peu pour ça que j'ai créé, c'est ce que je disais à Mme Ouellette, parce que moi, en tant que parent, je ne suis pas une association, mais j'ai voulu, en fait, donner une voix et faire voir que le vitiligo est aussi présent au Canada et particulièrement au Québec. Et donc, j'ai créé une page qui s'appelle Vitiligo Montréal-Québec pour un petit peu faire voir une autre image, une image beaucoup plus positive, des photos beaucoup plus colorées, où les gens sont plus positifs, parce qu'en fait, ça joue énormément sur l'estime de la personne. Et sur l'image qu'on essaye de véhiculer, parce que toutes les images médicales sont très négatives, elles sont très ternes, elles sont fades, elles sont très péjoratives.
Mais comment rendre une image positive de quelqu'un qui offre un regard aussi différent?
C'est en fait intégrer, comme là, le projet que je suis en train de qui est en cours, hein, qui a lieu le 14 novembre au mai, qui est situé au 3680 rue Jeanne-Mance, qui m'a au fait donné cette possibilité de pouvoir expliquer et de pouvoir donner en fait une vitrine au vitiligo, mais une vitrine positive par le biais de l'art. Pour moi, en fait, le vitiligo, on peut l'afficher et on peut le montrer, mais de façon différente. C'est pour ça que j'ai voulu aussi intégrer une artiste, qui est une artiste franco-américaine, qui en fait a mis en place un projet qui s'appelle Face Motions et qui utilise en fait ces toiles de peinture et qui intègre en fait la personne atteinte de vitiligo dans la toile pour en fait faire voir et faire transparaître l'émotion. Ça peut être la colère, la joie, la peur, mais en fait les couleurs de la toile et puis la personne en tant que telle, ben, ça donne une autre image et en même temps ça donne un soutien à la personne pour faire voir qu'elle est comme les autres, elle a une beauté.
Ouais.
Il faut savoir l'exploiter, il faut savoir la montrer.
Je me demande si une des difficultés pour ces gens-là n'est pas justement le si petit nombre. Si on voyait une réalité comme celle-là, probablement qu'on serait moins surpris chaque fois et que éventuellement ça passerait.
Ben,
les premiers gars qui ont eu les cheveux très très longs, puis à un moment donné, oups, ça.
Je pense que c'est aussi il y a aussi une part dans l'éducation.
Ouais.
C'est-à-dire que plus on va commencer à éduquer les enfants à accepter, à faire voir qu'en fin de compte, on est tous un individu et que chaque personne a il est comme il est, quoi. Et savoir accepter la différence, faut être tolérant. Et ça, en fait, ça vient dès le jeune âge. Et pour moi, il y a un travail à faire dans les écoles. Et ça, c'était aussi une chose que je voulais aborder, c'était l'école.
Ouais, non, c'est vrai qu'il y a de l'éducation à faire. Puis c'est quand même très bien d'avoir initié avec la page Facebook, justement, la discussion. La page qui sera en lien sur la page d'Accès Libre. Ariel, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est court. Rappelons donc le 14, vendredi.
C'est ça.
Quelle heure?
À partir de 9h, de 9h à 14h, donc les Face Motion avec Stéphanie Korn, et de 15h à 17h, la table ronde avec le mai. Et je voudrais aussi remercier M. Michael Toppings qui m'a en fait donné la possibilité d'utiliser le MEP pour cet événement.
Intéressante cette discussion. On revient dans 2 minutes. Ariel Paco, à bientôt.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Accès libre.
Avec Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde, Claudia Benoît aux réseaux sociaux, Lynn Gargano à la recherche. Mon nom est Luc Fortin, en compagnie de Gail Ouellet, qui elle est la directrice générale du Regroupement québécois des maladies orphelines. On passe le mois de novembre ensemble tous les vendredis. Et nous voulions revenir en deuxième partie de l'émission à cette 6e journée qui avait lieu le 30 octobre dernier, donc 6e édition de la rencontre provinciale du réseau des municipalités accessibles. 47 municipalités y étaient représentées. On parle de 115 représentants ou participants. La première journée, donc en 2009, qui avait lieu à Victoriaville, incluait 22 municipalités, donc on en a le double, et 15 régions y participaient. Au bout du fil, du côté de Saint-Eustache, il est agent communautaire pour la ville, Michel Lamontagne. C'est bien ça, Michel, agent communautaire?
Agent développement.
Agent développement, bon, merci de préciser. Michel Trudel, vous m'avez dit que vous étiez conseiller pour Kiroul.
En effet, bonjour.
Bonjour. Donc, Michel, Gail, Luc, et tout est parfait. Est-ce que c'était votre première occasion, Michel Lamontagne, ou pouvez-vous me parler peut-être de l'évolution de cette journée-là? C'était peut-être votre première fois, par contre?
C'est la première fois qu'on accueillait à Saint-Eustache. Par contre, ça fait 6 ans qu'on travaille avec le comité Municipalité Accessible.
Et comment avez-vous vu une évolution positive? Parce que nous, je vous dirais, les gens qui attendent après l'accessibilité trouvent que ça évolue à tâtons, tout ça.
Oui, effectivement. Je vous dirais que depuis quelques années, les municipalités ont l'obligation de créer un plan d'action. Des municipalités de 15 000 habitants et plus doivent créer un plan d'action pour résoudre en fait le problème d'accessibilité là, un petit peu partout. À l'époque, en 2009, vous l'avez mentionné, ça a été notre première rencontre. On avait déjà beaucoup de questionnements parce que c'était déjà des obstacles, des défis, en fait, à l'époque. Donc, on a décidé de se rencontrer pour une première fois. Donc, vous l'avez mentionné aussi, 22 municipalités se sont rencontrées à cette époque. Depuis ce temps, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, je vous dirais. Autant dans les municipalités qui doivent créer le plan d'action, donc ils ont fait un pas de géant, je vous dirais, là, quand même. Ces rencontres-là ont permis justement de pouvoir évoluer, se partager les bons coups, les bonnes pratiques dans différentes régions.
Ouais. Il y a des municipalités qui évoluent favorablement plus rapidement que d'autres. Avez-vous entendu des commentaires du genre la semaine dernière? Moi, je veux bien, j'ai des bonnes idées parce que c'est probablement les gens qui sont associés au dossier de l'accessibilité de leur ville qui se sont déplacés vers Saint-Eustache. Alors, on vous dit, moi, j'ai des bonnes idées, mais je sens autour de moi un certain immobilisme parce qu'on préfère investir de l'autre côté ou parce qu'on manque d'argent. Finalement, il y a un blocage un peu plus loin.
Bien, je vous dirais que c'est sûr et certain que le manque d'argent fait toujours partie de la problématique à la base. Par contre, on a des gens créatifs qui travaillent dans nos municipalités et je pense que ces gens créatifs-là travaillent aussi avec des partenaires hyper importants dans nos régions et c'est grâce à eux, je pense, que l'évolution se fait plus rapidement, je vous dirais.
Ouais.
C'est sûr et certain, comme vous l'avez mentionné, ça ne va jamais assez vite pour les gens qui en ont le plus besoin. On est tout à fait d'accord. Puis même nous, là, qui travaillons directement là, à essayer de faire évoluer les choses, on trouve que ça avance jamais assez vite. Il nous manque souvent des moyens, mais on travaille de concert avec les partenaires et ce qui nous aide beaucoup. Là.
Michel Trudel, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, OK? Donc, vous avez tout à fait le droit de me dire, Luc, je pense que vous êtes un peu sévère. Bien, j'ai l'impression, bien que vous ne vous intéressiez qu'au tourisme, j'ai l'impression que le manque d'argent vient souvent comme une excuse, alors que, entre autres, la semaine passée ou il y a deux semaines à la facture, on se rendait compte que les hôtels ne suivent pas et il y avait un hôtel qui a été construit en 2012, qui volontairement n'a pas suivi les normes, que la régie du bâtiment, si on ne place pas de plainte, ne va pas inspecter pour voir si... Donc, l'argent, c'est une chose, mais la volonté, c'est autre chose.
Tout à fait. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Dans le cas qu'on a vu à la facture, l'hôtelier, on a tenté de le joindre alors que l'hôtel est en construction. On était à ce moment-là à la recherche d'hôtels autour du Palais des Congrès en vue du congrès international que l'on organisait qui a eu lieu à l'automne dernier.
Mm-hmm. Destination pour tous.
Destination pour tous. Ouais. Quand on a vu que l'hôtel est en construction, on a approché l'hôtel pour s'assurer et lui offrir nos services pour bien le conseiller et pour pouvoir bonifier notre offre de services de chambres accessibles pour les congressistes. Mais... il y a eu un refus de discussion avec l'hôtelier comme tel. Et ce n'est qu'une fois qu'il a été ouvert qu'on a pu offrir nos services d'évaluation et de certification. Parce que Kérol, c'est le seul organisme qui va certifier l'accessibilité des hôtels, par exemple, au Québec. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que le nombre de chambres que l'hôtelier prétendait avoir était de loin inférieur à ce qu'il devait avoir en vertu du code de construction.
Ouais.
Donc, quand on construit, quand on est en mode de construction et qu'on prévoit l'accessibilité, ça ne coûte quand même pas si cher que ça. C'est quand on doit refaire nos devoirs, réaménager les chambres, réaménager les accès, c'est là que ça coûte cher, c'est évident.
Michel Lamontagne, est-ce que dans le réseau des municipalités accessibles, on sent justement des municipalités qui sont sont impliquées, sont créatrices, alors que d'autres sont en queue de train? Qui sont les exemples?
Bien, je vous dirais que ça serait assez difficile de parler de toutes les municipalités, au nom de toutes les municipalités, mais je peux vous nommer plusieurs municipalités qui sont très proactives, puis sans nommer la municipalité pour laquelle je travaille, parce qu'on la considère quand même assez proactive dans son milieu. Mais il y a Victoriaville, entre autres, Gatineau, quand même, qui sont des municipalités importantes là, au niveau de l'accessibilité. Il y en a plein, là. Je pourrais en nommer plein. En fait, les 50 municipalités qui étaient présentes lors de la journée provinciale étaient tous des municipalités qui, avec les moyens qu'ils ont, travaillaient très fort pour que l'accessibilité puisse être développée dans leur milieu.
J'ai ouï dire qu'à Victoriaville, si tu veux avoir pignon sur rue, que tu sois municipal ou privé, pour avoir un permis, tu dois être accessible.
Ah, effectivement.
Donc, il n'y a pas de ni ça, c'est comme ça. Puis, il me semble, on ne parle pas d'argent, là. Tu sais, ça se fait. J'aimerais ça. Il y a sûrement, parce que cette année, le sujet était les camps de jour. Hein, chaque année, vous essayez de regarder et de prendre une avenue, peut-être, pour échanger des idées. Est-ce qu'il y a des bonnes idées? Est-ce que vous avez vu des projets qui, vraiment, on peut être optimiste?
C'est sûr que les projets sont très optimistes. En fait, les bonnes pratiques qui ont été échangées cette journée-là ont été très florissantes. Mm-hmm. Je vous dirais que le comité, quand il est sorti avec les constats de la journée, on a beaucoup de travail à faire pendant l'année pour partager cette information-là. Et ça a été un désir ardent, je vous dirais, là, des municipalités de se revoir pour en reparler encore des camps de jour.
Quel a été le sujet le plus hot de cette journée, la priorité qui est ressortie, si vous voulez en nommer une au moins?
Vous voulez dire un des constats qui est ressorti?
Oui.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr et certain que parmi les constats, c'est que chacun avait des objectifs ou des défis, en fait, à relever au niveau des camps de jour, parce qu'on a la population, généralement, il y a des municipalités qui se donnent une mission pour leur camp de jour, une mission d'intégration, exemple, dans le camp de jour, et parmi les défis à relever, c'était de garder un beau ratio entre le nombre de personnes intégrées dans le camp de jour et le nombre de jeunes réguliers, entre guillemets, là. Donc ça a été un défi qui a été soulevé. C'est sûr et certain aussi que le manque de personnel aussi aurait été un autre défi qui a été soulevé. C'est sûr que l'argent aussi a refait surface, évidemment. Mais je vous dirais que il y a des bonnes pratiques qui ont été ressorties, comme un partenariat qui existe avec des entreprises privées, des organismes communautaires et la municipalité, qui fait en sorte que ça fait avancer le projet et l'intégration est plus facile des jeunes dans le camp de jour.
À Saint-Eustache, comme municipalité accessible, comment ça va?
Ça va très bien, je vous dirais. C'est sûr qu'on a du chemin à faire, on a encore des améliorations à faire, mais je vous dirais qu'on est une municipalité quand même proactive. On se situe parmi les municipalités assez actives.
Est-ce qu'il y a eu, disons, dans les 4 ou 5 dernières années, là, des ajouts intéressants, que ce soit dans le mobilier urbain, que ce soit dans, justement, l'accès à certains groupes ou des organismes qui maintenant peuvent offrir des services aux personnes à mobilité réduite qui ne pouvaient offrir jusqu'à récemment? Est-ce qu'il y a des ajouts?
En fait, dans les dernières années, on a construit un complexe multisport, un complexe aquatique, je veux dire, à Saint-Eustache et une bibliothèque. Donc, les deux sont très accessibles. Mm-hmm. Par la suite, on a notre programme, justement, de camp de jour, puisqu'on en parle, a été un programme qui a vu une très nette amélioration, je vous dirais, là, au niveau de son efficacité à l'embauche. Jusqu'à l'intégration puis le partage d'informations à l'intérieur pour le personnel. Donc, nous, pour ne citer que ça, là, on forme tout notre personnel pour être en mesure de pouvoir intégrer des personnes, les enfants handicapés dans le camp de jour. Donc, tout le personnel, autant moniteurs qu'intervenants, sont formés pour intégrer.
Michel Lamontagne est agent de développement pour la ville de Saint-Eustache. On parle de cette sixième journée ou sixième édition de la rencontre provinciale du réseau des municipalités accessibles. Michel Trudel, qui roule, avait demandé à être là parce que vous vouliez, entre autres, pour les villes qui veulent augmenter leur offre touristique, vous aviez une proposition à faire, un label à mettre de l'avant.
En fait, c'est un projet qu'on veut soumettre aux villes. Évidemment, l'accessibilité dans le milieu urbain, dans le milieu municipal, c'est au premier chef là, pour les citoyens que la ville doit développer ça. Nous, ce qu'on apporte, c'est un plus pour la municipalité qui aura développé l'accessibilité, c'est que la ville pourrait être reconnue comme une destination pour tous. Et à ce moment-là, on peut en faire la promotion pour offrir des séjours prolongés aux personnes handicapées, leurs familles, leurs amis. Voyez que Kéroul, depuis nombre d'années, développe une expertise avec les entreprises, intervient auprès des hôteliers, des attraits touristiques. On intervient un peu à la pièce. On a regroupé ça dans notre offre touristique avec la route accessible, mm-hmm. qui fait un ensemble d'offres pour les personnes qui veulent prendre des vacances ou faire des voyages au Québec. Mais le concept de destination pour tous vient un peu rassembler à la fois les services, les attraits touristiques, les services de transport, offre un séjour complet sans obstacle dans un lieu donné. Peut être une municipalité, une région ou un quartier, par exemple.
Parce que la route accessible va inclure des régions et dans ces régions-là, on va identifier des adresses, des endroits précis où c'est accessible. Là, ce que vous amenez, c'est l'idée qu'une municipalité et non juste une adresse devienne destination pour tous.
Exactement. Exactement. C'est un territoire donc, qui permet un séjour. Et lorsqu'on on aborde cette question-là, donc, on déborde l'aspect strictement touristique d'établissement, d'hébergement, de restaurants et d'attraits. On parle de transport local et aussi on parle d'accès au commerce. Parce qu'une personne qui va faire un séjour d'une semaine de vacances va aller à la pharmacie, va aller au dépanneur, va aller à l'épicerie. Donc, c'est l'ensemble de l'offre de services qui sera accessible à ce moment-là.
Mais là, les municipalités qui sont moins grandes, c'est peut-être plus facile parce que la pharmacie qui est accessible est peut-être plus près de l'hôtel qui est accessible qu'à Montréal où l'hôtel est dans l'Est puis la pharmacie est à Beaconsfield.
Bien sûr.
On va commencer par des petites municipalités. Vous allez quoi? Contacter des conseils de ville? Comment pousser cette idée qui est, ma foi, fort intéressante?
On l'a lancé à quelques reprises dans des plans de développement touristique. On a approché certaines municipalités. On vient de le lancer, donc, lors de cette réunion de municipalités qui développe le réseau d'accessibilité. Mais pour formaliser la démarche, ce qu'on prévoit faire, c'est faire un appel à candidature auprès des municipalités qui voudront jouer le jeu avec nous et développer leur accessibilité.
Donc, des gens qui vont vous appeler en disant « qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? »
Bien, en fait, qui vont soumettre leur candidature pour pouvoir aller chercher ce label-là. Puis, avec les critères qu'on aura élaborés, vont voir qu'est-ce qu'il leur reste à faire, justement, pour devenir complètement accessible.
Oui. En terminant, Michel Lamontagne, comme ça, là, disons, la prochaine chose qui serait peut-être envisageable pour Saint-Eustache, pour continuer à marcher vers une destination pour tous, ce serait laquelle au menu?
Ben, en fait, on est en train de travailler là-dessus, justement. On a un comité de directeurs à ce niveau, où siège l'OPHQ, entre autres, et où siège notre service de l'urbanisme et notre service des ressources humaines. Donc, on travaille justement sur la possibilité de modifier probablement des règlements là, au niveau de la municipalité. Au niveau du bâti.
OK. Bien, ce sera à suivre. En tout cas, gênez-vous pas. Nous, on aime ça, partager la bonne nouvelle. Alors, quand il y a des choses comme ça positives, c'est toujours agréable de les relier. Michel Lamontagne, donc agent de développement pour la ville de Saint-Eustache. Michel Trudel, conseiller chez Kéroul. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
9 minutes pour parler de prise de sang, c'est suffisant. Laurent-Paul Ménard, porte-parole pour Aimant Québec, bonjour.
Oui, bonjour, M. Fortin.
Ah, Luc, c'est suffisant. On parle aujourd'hui du plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées 2014-2015. Lorsqu'on parle d'intégration, Laurent-Paul, c'est pas pour l'embauche, c'est plutôt pour la collecte de sang. Vous voulez mon sang?
Pour les deux niveaux, je vous dirais,
okay.
Luc. D'une part, il y a effectivement, pour ce qui est de l'embauche, il y a des mesures qui sont prévues dans notre plan d'action. Mais on a également des mesures qui sont prévues, évidemment, dans un de nos secteurs d'activité, c'est-à-dire les collectes de sang.
Mm-hmm.
Donc, si on regarde du côté des mesures au niveau de l'embauche, ben il y a des actions qui ont vraiment été prises pour faire en sorte de faciliter et d'encourager, promouvoir l'embauche de personnes handicapées. Donc, parmi les mesures là, qui ont été prises, notamment, là, c'est cibler le recrutement auprès d'organismes pour rejoindre les personnes handicapées à la recherche d'un emploi. On a, entre autres, on va diffuser nos offres d'emploi sur des plateformes comme celle du regroupement des organismes spécialisés pour les personnes à l'emploi, pour l'emploi des personnes handicapées,
excusez-moi. Autres, hein?
Et donc, ça fait partie des mesures. On a également des mesures pour notre personnel qui est déjà à notre emploi, qui a un handicap. On a, entre autres, là, j'ai une collègue au télémarketing, dans notre équipe du télémarketing, qui a un handicap visuel important. Et on a adapté son poste de travail pour qu'elle soit en mesure là, de pouvoir utiliser les outils informatiques avec le braille. Donc, ça fait partie là, des actions prises par Aimant Québec au niveau de l'employabilité. On est une cause sociale, on en est conscient, et donc ça doit se transmettre non seulement auprès de la mission, mais également là, dans notre vie de tous les jours.
Qu'est-ce qui a motivé un plan comme celui-là?
Bien, écoutez, c'est sûr et certain qu'à la base, le plan d'action qui est diffusé en vertu d'une législation là, qui a été adaptée par le Québec pour demandant là, aux organismes gouvernementaux et des organismes. Dans notre cas, on n'est pas tant un organisme gouvernemental, mais on est un organisme qui relève du gouvernement du Québec sur certains aspects. Donc, il y a cet aspect-là, mais je vous dirais, au-delà de ça, il y a réellement chez Aimant Québec une sensibilité pour les différentes dimensions de notre société, parce que faut pas se le cacher, la cause du don de sang, ça concerne tout le monde.
Absolument.
Et donc, dans ce sens-là, ben nous, on a un modèle au niveau de la collecte de sang qui est réellement un modèle qui est très communautaire dans mesure où la responsabilité de la réserve collective de sang dépend de la part de tous et de toutes. Donc, dans cet esprit-là, c'est sûr et certain que ayant ce message-là, vous me passerez l'expression, là, mais il faut que les babines suivent les bottines.
Ouais.
Et donc, dans notre esprit, c'est très clair qu'on se doit d'être inclusif dans toutes nos dimensions. Et donc, ça touche à la fois la collecte de sang, mais également là, nous, à titre d'employeur, on emploie quand même 1300 personnes. Là.
Dans la collecte de sang,
ouais.
Que ce soit les personnes qui ont qui utilisent des fauteuils motorisés, que ce soit peut-être des personnes qui ont des maladies neurologiques, donc peut-être que le bras bouge un peu, c'est peut-être un petit peu plus difficile de trouver la veine. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour que tout ça soit facilité?
Bien, je vous dirais que les mesures qui ont été déployées et qui, il y en a certaines là, aussi qui s'en viennent, c'est davantage au niveau de l'accessibilité en termes de rendre nos collègues accessibles, que ce soit pour des personnes à mobilité réduite ou encore des personnes là, qui ont quand même un handicap physique qui oblige l'utilisation d'un fauteuil roulant. Donc, on va privilégier, dans la mesure du possible, l'utilisation de locaux qui ont qui sont dotés là, d'équipements qui facilitent l'accès, l'accès au site. On a d'autres mesures qui vont être déployées dans le courant de d'ici le mois de mai 2015 pour les personnes qui ont un handicap visuel pour être en mesure d'avoir donc de pouvoir avoir un système audio pour les questionnaires au don de sang. Parce que vous savez, une personne qui va faire un don de sang
pour remplir.
Avant, ben c'est ça.
Ouais. Avant de remplir la shopping, il faut remplir le formulaire.
Vous avez entièrement raison, Luc, vous le résumez à merveille. Donc,
mais le lit là, sur lequel je dois m'étendre, si je suis en fauteuil électrique et je suis tétraplégique, est-ce qu'il y a un lève-personne pour m'installer sur le lit ou je reste assis?
On n'en est pas rendu là, quand même.
OK. Est-ce que je peux le faire assis?
Bien, j'imagine que oui. La seule chose, c'est que c'est au niveau de l'expérience du don de sang, parce que, règle générale, les donneurs vont être placés dans le fauteuil de telle sorte que les pieds sont légèrement surélevés.
Mm-hmm.
Donc, la mesure est fort simple, là. C'est simplement pour prévenir une chute de pression d'une personne. Donc, plus on est placé dans une station assise où les pieds légèrement relevés, ben le sang va davantage remonter vers le cerveau et ça permet de prévenir. C'est une mesure qui est toute simple, qui a l'air très banale, mais qui permet de prévenir dans certains cas pour les nouveaux donneurs ce qui pourrait être un léger malaise, là. Donc, dans le cas d'une personne qui a de la difficulté à se mouvoir ou comme le cas que vous donniez, ça peut être problématique. L'autre chose, c'est que je sais pas si il peut y avoir là, des difficultés qui pourraient être reliées à la ponction comme telle ou aux prises de pression et tout ça, parce qu'il y a quand même d'autres choses avant qu'on pique là, comme telle pour le prélèvement du sang. Il y a quand même d'autres étapes qui sont prévues. Fait que, à ce niveau-là, là, d'avoir un équipement qui permettrait d'avoir un lève-personne et tout ça, c'est pas des mesures qui sont encore déployées.
Une des réalités peut-être difficiles, c'est d'avoir accès à l'information, de savoir justement où est la prochaine clinique de sang. Bon, au pis-aller, une personne aveugle peut peut-être l'entendre à la radio, ce qui n'est pas le cas d'une personne malentendante. Est-ce qu'il y a des mécanismes prévus pour que la personne sourde sache qu'on attend son sang?
Bien, écoutez, au niveau de la personne sourde, il y aurait au niveau du site web d'Hémo-Québec, donc qui diffuse réellement l'information de façon extensive, avec des outils aussi pour faciliter l'accès au site. Sur le site web, dans les mesures qui sont prévues, donc pour les personnes qui pourraient être malentendantes, mais qui souhaiteraient le consulter, si en plus, elles ont une difficulté au niveau visuel, il y a possibilité d'augmenter la grosseur des caractères. Donc, il y a certaines mesures là, qui sont prévues pour rendre l'information facilement accessible si on a un handicap au niveau auditif, là. On peut se rabattre sur autre chose.
On n'en est pas encore au médaillon avec la langue signée du Québec?
Non, mais on a déployé néanmoins là, je m'excuse, là, je cherche mes...
Je peux pas vous aider.
Des vidéos, voyons.
Oui, OK.
c'est assez simple comme terme, là, mais on a déployé, on a des vidéos qui ont été réalisé en langage des signes.
OK.
OK. Pour justement expliquer les principaux critères de sélection.
Et ils sont sur le site, parce que j'ai plus de temps, malheureusement, ils sont sur le site. OK.
Oui, tout est disponible sur notre site web.
Laurent Paul Ménard, porte-parole de Hémo-Québec. Merci beaucoup, Laurent Paul. Merci beaucoup, Gaëlle Ouellette. Faut donner du sang. Je l'ai fait juste une fois, je devrais le faire plus souvent. Jean-Sébastien, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Bonjour.